marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Les archives sont la mémoire, elles sont aussi le grenier de l'histoire.
Notre témoin de ce vendredi, Jean Kergrist à Lyon, en mai 1968, la mort du commissaire Lacroix.
Donc la fac, depuis le début mai, était occupée et ça a été le moment merveilleux de mai, marqué effectivement par des manifestations intenses et une qualité de dialogue et de relation entre les êtres que j'ai connu auparavant, que je n'ai jamais retrouvé depuis. Le 24 mai, c'est vraiment le passage du mai solaire au mai plus ténébreux. Je veux dire par là que c'est justement la mort du commissaire Lacroix a changé l'atmosphère à Lyon de façon définitive.
Claude Burgelin, alors jeune universitaire à Lyon. Ce 24 mai, les étudiants d'extrême-gauche de la ville décident de faire aussi bien que ceux de Paris. Ils modifient le parcours d'une manifestation en la dirigeant vers les quais du Rhône. Pour qu'ils ne parviennent pas à la préfecture, les forces de l'ordre barrent le pont Lafayette. Un camion fou surgit des rangs des manifestants qui, de l'autre côté du pont, va tuer le commissaire Lacroix, le coinçant contre un parapet. Personne à ce moment ne conteste cette version. Deux personnes, des trimards brouillés avec le langage, pas des étudiants, sont d'ailleurs assez rapidement arrêtés, Raton et Manche. La Vulgate dit qu'il n'y a pas eu de mort en mai. C'est inexact, il faut au moins les doigts d'une main pour les compter. Ce même 24 mai, un manifestant de 26 ans, Philippe Matérion, est tué à Paris. La version officielle dit qu'il a succombé à une blessure à l'arme blanche portée par quelqu'un qui se tenait à ses côtés. Mais n'a-t-il pas été touché par un éclat de grenade? Le récit dominant de la mort du commissaire Lacroix tient-il vraiment? Il correspond en tout cas au désir du Premier ministre, Georges Pompidou, qui attend depuis le début des événements celui qui lui permettrait de mettre un coin entre les manifestants et l'opinion publique. Le 28 mai, les obsèques du commissaire Lacroix, filmées par la télévision, provoquent une émotion de bon aloi pour le pouvoir. Pourtant, deux ans plus tard, au procès en assises, Raton et Manche sont acquittés. Leur avocat a pronostiqué « Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé ». Quelques questions apparues au procès restent en effet sans réponse. Lacroix est-il vraiment mort écrasé? Ou bien faut-il accepter une autre version de son décès? Une interrogation encore fera même son chemin. L'autre Lacroix, mort le même jour à Lyon d'un accident, a-t-il à voir avec le commissaire? Mai 68 a mis des bâtons dans les roues du pouvoir, mais il dérange aussi les automatismes dans la connaissance.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Jean Kergrist, qui publie aux éditions des Montagnes Noires, diffusion Cobbraise, mai 68 à Lyon, libéré Raton. Alors vous êtes acteur, auteur, grand agitateur d'idées, fondateur notamment du TNP. TNP ?
TN National Portatif, qui est un clin d'œil à mes maîtres de la décentralisation à Lyon, vie urbaine.
Oui, parce que vous faisiez du théâtre aux côtés de Planchon, aux côtés de Marcel Maréchal. Alors ce qui est un peu curieux, Jean Kergrist, c'est que en même temps vous avez une autre vie à l'époque. Vous avez commencé des études de dominicain à la Tourette, le couvent de Le Corbusier, et vous vivez dans un petit groupe de dominicains qui vous a permis d'aller sur le champ du théâtre.
Et c'est un petit couvent détaché de l'autre qui se trouvait juste en face de la fac de lettres. Donc j'étais aux premières loges, mais comme Maréchal venait de fermer le petit théâtre des Marronniers, nous, on devait monter la poupée de Liberty avec Marie Laforêt, et mais l'Odéon était occupé, donc le petit théâtre a fermé également, et moi je suis parti à Givors dans un entrepôt alimentaire, tourner toute la nuit autour de chariots, il fallait remplir les camions, oui, pour gagner un peu d'argent pour la communauté.
Ça c'est une de vos nuits dévouées à la communauté. Maurice Bellet, grand théologien, qui vient de mourir à près de 100 ans, a donné tout récemment cette définition de la révolution. La révolution, c'est changer de désir. On peut dire que vous avez compris en mai 68 que le ciel n'était peut-être pas exactement là où vous l'aviez situé avant.
Oui, ça a été une révélation, mais elle était quand même préparée, parce que les Dominicains n'étaient pas totalement à côté de leur pompe. Il y avait eu le Vatican II, où plein de Dominicains s'étaient illustrés. Il y avait eu des Dominicains dans le domaine de l'art, avec le couturier, la revue Art Sacré.
Oui, oui mais moi je voulais vous parler de Marie-Françoise, enfin appelons-la Marie-Françoise.
Oui. Oui, je raconte cette histoire aussi, parce que j'étais prêt à tout en mai 68, lors de des frères prêcheurs, donc de la parole ouverte, était une bonne attente pour préparer les événements de mai 68, on n'était pas perdus, sauf sur un point. un des slogans de mai 68, jouissez sans entrave, là on n'était vraiment pas préparé. Et les entraves, en fils de paysan, je savais ce que c'était, c'est ce qu'on mettait aux chevaux dans les champs pour les empêcher de gambader, de briser les clôtures. Et quand je dis briser les clôtures, je parle de la mienne, la clôture monastique où on avait fait vœu de chasteté.
On n'en dira pas plus de la nuit avec Marie-Françoise, on n'en parlera pas davantage que de la nuit dans les entrepôts. Vous aviez déjà participé à l'agitation ouvrière qui avait marqué très précocement Lyon et sa région, Berliet. L'anagramme, c'est liberté. Alors on va, pendant le mois de mai 68, voir sur la façade de Berliet ces mots-là, liberté. Mais il y avait eu Rodiaceta avant.
Oui, l'année précédente. Et là, j'ai découvert à vos archives ma photo dans une manif. Ah. Ma grande surprise.
Et alors, le 24 mai, en théâtre bien constitué, vous participez au concile d'une trentaine de directeurs de centres dramatiques nationaux à Villeurbanne. Ça se trouve le matin.
Observateur seulement, hein, j'étais pas directeur. Oui. Les assises de Villeurbanne qui ont accouché du grand slogan « Le pouvoir au créateur ».
Et alors, les slogans, le 24 au soir, quand une manifestation organisée par des syndicats étudiants et enseignants a pour objectif officiel la place des Célestins. Les slogans, c'est quoi? Et puis, c'est pas très chaud, très vite?
Très vite, on a compris qu'on était un peu manipulé. Enfin, à l'époque, je n'employais pas ce terme, mais la manif qui devait aller au théâtre des Célestins a été un peu plus loin. Et l'objectif, c'était la préfecture. Et là, on savait que ça allait chauffer parce que les ponts empêchant la traversée du Rhône étaient barrés par les CRS.
Et dites-moi, vous faites la connaissance là d'un mec assez vigoureux, dont on fera un portrait plus long tout à l'heure, mais qui exerce une autorité sur vous, qui vous voit, il sait pas que vous êtes dominicain, s'il l'avait su, il vous voit les bras ballants, les mains dans les poches, et il vous dit...
Eh ben, et toi, qu'est-ce que tu fais là, ben dans les poches?
Et alors, qu'est-ce que vous avez fait là?
J'osais pas trop foutre des pavés à la figure des CRS, mais j'ai quand même participé à la chaîne pour amener les pavés à l'endroit où il fallait avant qu'ils soient jetés sur le pont Lafayette. Donc c'est cette culpabilité-là qui m'a habité pendant des années.
Le préfet Max Moulin, le préfet du Rhône, le lendemain.
La police, dans toutes ces circonstances et suivant les ordres reçus, est restée, et je tiens à le dire, d'un calme et d'une abnégation assez remarquables. Il faut être à proximité des barricades pour voir ce qu'est le rôle de ces gendarmes, de ces gardiens de la paix de Lyon, qui reçoivent toutes sortes de projectiles sans brancher et qui, simplement, lorsque leur ordre en est donné, essayent de dégager la route avec des grenades lacrymogènes. Mais alors intervint... vraiment, le drame. Un camion chargé de matériaux divers fut mis en route, l'accélérateur bloqué et lâché par les manifestants en direction du service d'ordre. Et c'est ainsi que le commissaire René Lacroix, père de trois enfants, fut écrasé entre le parapet du pont et ce camion.
Version qui n'est pas contestée du tout à l'époque, et on cherche évidemment des responsables. On a repéré un fils de propriétaire de camion là, du côté des manifestants qui avait amené des camions.
Le camion, sur la portière du camion, on avait écrit Jeannin. C'était un grand entrepreneur de Lyon, et très rapidement, ça s'est orienté vers le fils Jeannin, et c'était lui qui avait amené ce camion, qui avait été le chercher sur un chantier, et qui l'avait amené au pont, le fils Jeannin. Mais Il a donc été le premier à être dans le collimateur des enquêteurs. Mais très vite, il a été libéré. C'était le fils d'un grand entrepreneur de Lyon. Il fallait pas trop le ranger. Là, on a trouvé des suspects qui pouvaient plus facilement être les boucs émissaires de cette affaire.
Oui, parce que c'était des trimards, on aurait dit à la Sorbonne, des catanguais, enfin, des gens dont on se disait qu'ils étaient sans aveu, en tout cas sans culture, et qui régnaient un peu par la force sur la faculté des lettres, ainsi qu'en témoigne Claude Burgelin, que vous avez retrouvé plus tard dans un documentaire « Libérera-t-on » qui porte le même titre que votre livre et que vous aviez produit pour France Culture.
Bon, effectivement, c'est un énorme type avec une carrure, une encolure d'une extraordinaire puissance, la gueule de l'emploi. Bon, c'était un type très très fruste et qui était brouillé avec le langage, hein, qui parlait mal. Mais qui par son poids, au sens le plus strict de ce mot, en imposait à tous. À ce moment-là, il se trouve que les radiateurs de la fac étaient en réparation. Donc il y avait une collection de radiateurs en fonte, et lui les soulevait comme ça, les arrachait du mur, les soulevait et les projetait.
Pour en faire des pièces détachées.
Pour en faire des pièces détachées, des projectiles. Ouais. Et Raton était effectivement... il était une espèce de chef de tout ce petit monde.
Autoproclamé
ou reconnu comme tel parce qu'il était le plus grand, le plus fort. C'était pas le plus intelligent, très évidemment. Non, il y en avait autour de lui quelques-uns qui étaient au contraire très très malins et très futés.
Qu'il manipulait.
C'est pas ce même Michel Raton qui avait manipulé le novice innocent et lui avait expliqué qu'il fallait transporter les cailloux?
En plus de casser les radiateurs, il fait fabriquer aussi des casques de protection avec les corbeilles qu'il enfournait avec du papier journal. Et il avait une chevelure très imposante qu'il teintait en roux. Il était un grand rouquin, avait des cheveux longs. Alors moi, j'étais vraiment subjugué par cet homme, amené là par des étudiants qui avaient besoin de main-d'œuvre de bas étage pour faire le sale boulot et pour aller devant.
En tout cas, il va vivre 2 ans enfermé avant son procès en compagnie de Manche. Pendant ce temps-là, vous vivez en communauté de base, toujours à Lyon?
Oui, parce qu'entre-temps, on avait fait la révolution et nous aussi au couvent de la Tourette, construit par le Corbusier à 30 km de Lyon. Et du coup, il y avait eu tout un tas de concertations, de conciliabules, d'assises parallèles avec les dominicains, les braves pères dominicains. Et on avait décidé de créer des communautés de base, non plus à 30 km de la ville universitaire, mais à Lyon même. Et je me suis retrouvé comme ça, dans une petite cellule. On était 7, 4 dans un appart, 3 dans l'autre. Et quand j'ai traversé cette période entre les événements et le procès, j'étais toujours dominicain. Et en même temps, j'assurais la correspondance de témoignage chrétien à Lyon.
Heureusement, l'ordre était revenu. Les choses s'étaient peu à peu remises en place, sauf chez vous, les dominicains.
Y'en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade la culotte en l'air à les entendre. On croirait bien qu'on est pinté tous les matins. Mais voilà, j'habite en France et la France c'est pas du tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Ce matin, devant la cour d'assises du Rhône, ouverture d'un procès qui nous ramène aux événements de mai 1968. Dans le box, deux hommes, Michel Raton et Marcel Munch, inculpés d'homicide volontaire contre le commissaire Lacroix, écrasés par un camion lors des violentes manifestations à Lyon en mai 68. Une quarantaine de témoins défileront devant les jurés. Verdict, sans doute, vendredi soir.
Septembre 1970, il y avait des inscriptions partout dans Lyon, libéré Raton. C'est le titre d'ailleurs, Jean Kergrist, du livre que vous publiez aux éditions des Montagnes Noires sur cette période que vous avez connue de près. Alors vous étiez toujours un témoignage chrétien et l'idée vous avez pris de contester?
la version officielle.
C'est-à-dire qu'il y avait des bruits qui circulaient à Lyon, et dont j'étais un petit peu... je me suis fait écho en faisant un article dans Témoignage chrétien, et manque de chance, ils l'ont placé en dernière de couverture, bien en évidence, avec plein d'affichettes dans les rues de Lyon, en disant qu'il y avait du nouveau sur l'affaire Raton et que j'apportais beaucoup de témoignages contradictoires avec la thèse officielle. Ce qui, moi, me gênait un tout petit peu, parce que je pensais pas que mon article allait être mis comme ça en évidence et j'avais pas trop vérifié mes preuves.
Mais le premier jour du procès manifeste, en effet, du côté de l'accusation, une certaine hésitation. Il y a très peu de témoins pour l'accusation. Le premier étudiant qui vient est un drogué. Je cite un juré. Hein. Le second guitariste amateur qui était venu ce 24 mai 68 parce que la violence l'inspirait. Et même du côté des médias officiels, ben, ça flotte dans l'interprétation de la première journée.
Qui a fait quoi? On a décrit des silhouettes de formes différentes. On a vu un ou deux hommes sauter du camion en marche. L'on n'était pas d'accord sur la couleur des cheveux du chauffeur ni sur sa tenue vestimentaire. Seule Madame Fontaine, une mère de famille, est sûre que le chauffeur portait une de ses vestes jaunes en plastique dont sont revêtus les hommes de chantier, mais pas plus que les autres témoins, elle n'a pu reconnaître formellement Raton et Munch. Un seul témoin à charge a déclaré, mais à l'instruction, reconnaître Raton comme étant le chauffeur du camion tragique. Hélas, ce témoin, un nommé Blanchard, n'était pas présent à l'audience. L'avocat général Kastner a reconnu que, malgré les recherches poussées de la police, Blanchard était resté introuvable.
Alors on s'interroge, que sont-ils devenus ces manifestants étudiants qui criaient à la vue du camion « Le camion sur les flics !» De gros incidents ont marqué la fin de cette première journée, tandis que l'officier de police Taffine racontait l'enquête très difficile qu'il mena, puis l'interrogatoire de Raton, qui alors lui fit des aveux complets, ce dernier, qui aujourd'hui nie tout, se dressa, littéralement fou de colère, et insulta le commissaire, lui disant « Vous m'avez cogné, vous m'avez cogné, vous m'avez mis le gégène ».
Alors vous avez donné une large place à Frédéric Potcher dans le documentaire que vous avez fait sur cette affaire, Jean-Pierre Grist, à France Culture. Alors ce camion fou, quelqu'un le conduisait, il y avait des cailloux qui étaient posés sur l'accélérateur, il a eu une trajectoire directe, brisée...
Alors, ce camion, moi, je l'ai vu partir également parce que j'étais sur le quai ce soir-là. Et...
Mais vous étiez de quel côté, vous, du côté?
Moi, j'étais
du
côté des manifestants, évidemment.
Bah oui, donc vous n'avez pas vu arriver le camion.
Non, mais j'ai vu arriver de Gerland, j'ai vu à un moment décharger des cailloux et je l'ai vu repartir, mais sans personne au volant. Il n'y avait vraiment personne au volant. Et je ne comprends pas que les témoins puissent dire qu'il y avait quelqu'un. Et il y a eu quelqu'un qui l'a lancé, qui a vite sauté à côté. Et on a vu le camion partir, mais il y avait tellement de grenades lacrymogènes qui embrumaient le pont qu'on n'a pas vu la suite.
Il y avait les réverbères.
Et on a su par la suite, par la radio, on a su qu'il y a eu un commissaire qui avait été, soi-disant, écrasé par le camion.
Comment soi-disant écrasé par le camion? C'était
la version officielle.
Coup de théâtre ce matin au procès des auteurs présumés de l'accident qui a coûté la vie au commissaire Lacroix, Charles Nupin.
Oui, en effet, les avocats de la défense ont demandé l'audition d'un témoin spontané. Il s'agit du docteur Gramont, interne de l'hôpital Édouard Herriot, qui, le 24 mai 68, donna les premiers soins au commissaire Lacroix.
Selon le docteur Gramont, le commissaire Lacroix, à son arrivée à l'hôpital ce 24 mai, était bien vivant et s'est entretenu une heure durant avec les externes de la réception. Ce n'est qu'après qu'il succombait à une fibrillation cardiaque brutale, c'est-à-dire à l'arrêt net du cœur. Immédiatement, le docteur Gramont, qui était de service à l'hôpital, tentait une réanimation et un massage cardiaque. Pour ce faire, il a, dit-il, enfoncé lui-même la cage thoracique du commissaire afin d'accéder au cœur et de le masser. Convoqué à l'audience, les médecins légistes affirment qu'il n'en est rien et que le commissaire Lacroix est bien mort de l'écrasement thoracique provoqué par le camion. Ils ont constaté la présence d'une vingtaine de fractures.
Alors, il est mort coincé entre le camion fou et le parapet. Il est mort plus tard.
Il y a d'abord le fait que le docteur Gramont n'a pas été convoqué. Il n'a même pas été entendu comme témoin. C'est ça qui est étonnant dans cette histoire. Il n'a jamais été entendu comme témoin. Dans l'instruction, oui. Et il s'est présenté bénévolement à la deuxième journée du procès après avoir entendu à la radio des comptes rendus accusant Raton et Meuch en disant c'est pas eux qui ont cassé les côtes du commissaire Gramont, c'est moi. en faisant un massage cardiaque après une alerte cardiaque.
Alors parce que cet homme de 51 ans était cardiaque.
Il était cardiaque. Et quand j'ai consulté les archives sur ce sujet...
Vous avez consulté les archives? J'étais... Dérogation.
Par dérogation, je suis allé aux archives du Rhône, les archives judiciaires, les archives de police, toutes les enquêtes, etc. Et dans un des rapports, il y a tout ce que le commissaire Lacroix portait sur lui. Il portait des médicaments, justement, d'urgence en cas de malaise cardiaque. Il avait fait déjà des infarctus, c'était également dans les dossiers. C'était pas le premier.
Mais il était en service, ce commissaire Lacroix, parce que vous avez... entendu un certain nombre de personnes qu'il connaissait dire que c'était un commissaire de gauche.
Tout à fait, et non seulement il n'était pas de service ce soir-là, mais c'est lui qui a demandé à être volontairement à aller à la tête de cette une brigade de CRS pour éviter la casse, pour protéger les enfants. Qui dit, voilà. Et c'était quelqu'un qui était un humaniste, un chrétien humaniste, qui était plus proche, disons, on va dire, du PSU, parce qu'il y avait plein de gens du PSU qui le connaissaient, et qui ont admiré son courage.
Alors, moi, voilà qui vous identifiez maintenant au commissaire Lacroix.
Oui, j'avais pu, c'était plus Raton mon héros. Petit à petit, au cours des années d'enquête sur ce sujet-là, qui m'a tarabusté pendant pas mal de temps, j'ai découvert que ce Lacroix, c'était quelqu'un de vraiment courageux, non seulement courageux, mais qui avait tout fait pour éviter la casse. Quoi.
Alors, aux archives judiciaires, vous voyez des photos qu'on ne connaît pas.
Que j'ai pas pu publier, parce qu'elles ne sont pas publiables.
Ces photos montrent un homme dont la cage thoracique est ouverte, mais, et ça confirme le point de vue des médecins légistes, tel qu'il était exprimé, un massage cardiaque, c'est pas ça qui provoque des fractures aux jambes et des blessures sur le corps.
Non, il faut pas être naïf. Si c'était bien, la question, si c'est bien le commissaire Lacroix qui est photographié là sur, c'était une photo qui avait été prise à la morgue, manifestement, c'est pas possible. C'est pas possible que simplement un massage cardiaque ait fait tous ces dégâts.
Mais alors, vous en avez parlé au docteur Gramont, que vous avez retrouvé beaucoup plus tard?
Oui, alors je lui ai posé la question, et il m'a dit, est-ce qu'il a été touché par le camion, malgré tout, même si vous l'avez vu vivant à l'hôpital, est-ce que vous n'aurait-il pas été touché quand même par le camion? Il m'a répondu, laconiquement, j'étais pas sur le pont ce soir-là. C'est tout ce qu'il m'a dit.
Alors, néanmoins... les hésitations des témoins de l'accusation, ce coup de théâtre, font basculer le point de vue des jurés, d'autant que les avocats de la défense ont du talent, et, oh, surprise, au total, au bout de 3 jours, parce que ce procès a été très vite expédié.
Ils étaient quelques centaines d'étudiants et bitniks qui, hier soir, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais de justice de Lyon, attendaient dans le calme le verdict des jurés dans ce procès des barricades. À 18h, une tempête d'applaudissements accueillit la décision des jurés transmise par le président Roche. Accusé, vous êtes acquitté.
Alors vous voilà redevenu Raton un instant là, Jean Kervest, et vous participez à la satisfaction générale. C'est quand même plus tard que vous êtes posé des questions sur cet acquittement et sur les zones de mystère qui demeurent, que vous en avez trouvé d'autres encore dont on n'a pas fait l'inventaire.
Oui, je me demandais si Raton et Munch avaient été acquittés par absence de preuves ou bien... par le fait que du témoignage du docteur Gramont, qui à lui seul paraissait un peu faible, parce qu'il n'avait pas de preuves non plus.
Par absence de victime, au
fond. Par absence de victime, quoi. Et cette absence de victime-là m'a amené à revoir l'article que j'avais écrit 2 ans avant, en disant qu'il y avait eu peut-être 2 Lacroix. C'était un bruit qui circulait à Lyon, qu'il y avait eu 2 Lacroix cette nuit-là à l'hôpital Édouard Herriot.
2 Lacroix.
Et un qui s'appelait Horace Lacroix et l'autre René Lacroix, le commissaire, et Horace qui était mort le même jour d'un accident de bagnole, écrasé, il était sur son vélo moteur, c'était un imprimeur qui est rentré chez lui et qui avait été écrasé renversé par une voiture.
Ils étaient dans le même hôpital, ils sont dans le même cimetière.
Aujourd'hui ils sont dans le même cimetière, à quelques mètres l'un de l'autre, ils sont allés dans le même hôpital et leurs corps se sont retrouvés tous les deux à la morgue le même soir. Alors, moi j'avais avancé ça comme ça sans preuve, et il se trouve que le canard enchaîné remet une couche en septembre 70, juste un peu après le procès, en ramenant cette histoire des 2 Lacroix.
C'est-à-dire que pour le canard, il y aurait eu une substitution
Substitution de corps à la morgue, possible. Il restait avec un point d'interrogation, il n'y avait pas de preuve. Et cette piste-là a commencé à me travailler et j'ai essayé de savoir qui était ce deuxième Lacroix. Et là, j'ai continué mon enquête avec l'aide d'associations généalogiques et j'ai retrouvé la fille de ce deuxième Lacroix.
Alors, je vous propose d'en rester là, parce qu'il faut laisser au lecteur de votre livre, Montagne Noire, un peu de suspension. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi cette affaire vous préoccupe à ce point.
Je pense que j'ai été un peu culpabilisé, et je voulais savoir si c'est cette affaire-là qui m'avait fait quitter les Dominicains, ou bien, disons, des affaires plus...
Septième ciel.
Voilà, septième ciel. qui m'avait fait donc lâcher le Dieu qui est au ciel pour d'autres dieux. Et est-ce que c'était cette violence sous-jacente à mai 68 que j'espérais au contraire un lieu de parole, un lieu de poésie, un lieu où tout le monde pouvait s'exprimer, où on parlait, où on se retrouvait, il y avait la communauté qui se retrouvait, et c'était tout à fait dans la continuité de ma vie que j'avais choisie comme dominicain. Ou est-ce que c'était cette affaire de violence là, qui m'avait détourné de l'ordre, et pas seulement moi, puisque à l'époque, on était, en deux ans, il y a eu à peu près 90% des dominicains qui ont quitté l'ordre à cette époque-là. Et je n'ai eu le cesse de comprendre ce qui s'était passé, quoi. Et de me culpabiliser aussi de cette mort indirecte, parce que moi, c'est pas moi qui avais poussé le camion, mais j'avais quand même porté les pavés. Hein. Donc, ce mai 68 m'était resté en travers de la gorge. Et aujourd'hui encore, mes conclusions sont assez claires. Hein. Je vois à peu près ce qui s'est passé.
Oui, parce que il y a d'autres hypothèses que vous suggérez relatives à la bourgeoisie lyonnaise. Mais là encore, agréable suspension, oui. Vos conclusions sont à peu près claires.
Mes conclusions sont claires pour ce qui est du commissaire Lacroix.
Mais pour ce qui est de vous.
C'est pas moi, monsieur. Mais pour ce qui est de moi, je n'ai pas fini d'inventorier cet héritage de mai 68.
Enfin, il vous restait peut-être, j'espère que vous l'avez fait, apporter secours et assistance à Raton.
Mon cher Raton, à cette heure, sont libres. On veut espérer que l'un et l'autre, en dépit de leur fragilité mentale et de leurs carences affectives et éducatives, réussiront à trouver leur place dans notre dure société. Puisse Raton, pour le repos de la société, comme pour son propre repos, comprendre que l'homme ne peut pas toujours vivre en état de révolte.
Munch s'est évaporé. Raton, que Frédéric Potcher, qu'on vient d'entendre une dernière fois, n'aimait pas précisément, qu'est-ce qu'il est devenu?
Mais il est mort au moment du quarantenaire, un peu avant le quarantenaire de mai 68. Il est mort, donc ça fait 10 ans. Et d'après les témoignages que j'ai eus, en particulier Daniel Vérissel, qui l'a embauché dans sa coopérative ouvrière, c'était un homme d'une douceur remarquable, d'une gentillesse. Il a adopté les deux enfants de sa femme, il a lui fait un troisième, et c'est chacun de ces enfants-là, il les a choyés, il leur a donné une maison, une bagnole, il a eu de cesse que de s'intégrer dans sa famille d'abord, mais également dans la société où il a été, malgré la poursuite, les flics ne lui ont pas pardonné, ils ont cherché à le mouiller dans plein d'histoires, et malgré tout, ce raton-là, il s'en est bien sorti. Mais il craignait terriblement mai 68, l'anniversaire des 40 ans, et il est mort très peu de temps avant.
Merci à vous Jean-Pierre Grist, mai 68 à Lyon, libéré Raton, édition des Montagnes Noires, Cop Braise. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco, à la technique Alexandre Chenet, à la réalisation Audrey Ripouille.